président, mesdames, messieurs, que j'apprécie l'honneur qui m'est fait de pouvoir prendre la parole en premier dans cette journée. Mais en même temps, c'est une tâche redoutable d'essayer d'expliquer ce qu'est la construction identitaire suisse, une construction basée sur la montagne et qui joue sans doute un certain rôle, pour ne pas dire un rôle certain, dans l'univers mental d'Émile Chanoux. Alors je vais essayer de remonter un peu dans le temps pour expliquer le fonctionnement. Voilà. Pour expliquer manière qu'on a dans la construction identitaire d'associer la montagne, c'est-à-dire un paysage, un environnement, à une perception identitaire. Ce tableau, je vais remonter assez loin. Les sources de la pensée chanousienne, je vais les faire remonter jusqu'au 14e siècle. Mais pour pas que ça soit trop dépaysant, on commencera par un exemple du 18e siècle. Ce tableau est un tableau qui présente donc des ethnotypes. Vous voyez horizontalement sur un fond de paysage où les montagnes sont bien sûr présentes, un certain nombre de personnages qui représentent des peuples, hein, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et c'est usuel dans la pensée de l'époque classique, on construit une grille avec des associations entre ces représentants des pays et puis un certain nombre de caractéristiques. On décrit par exemple leur pays et on trouve des notations tout à fait banales mais qui ont une certaine conformité avec la réalité, hein, que l'Italie soit fertile, ça personne n'en doute, ou que la Suède ici soit considérée comme montagneuse et la Pologne comme couverte de forêts, on peut l'admettre. Ou encore, quand il s'agit de caractéristiques de ces populations, on nous dit que ici, que les Allemands font des excès de boissons. Ou alors que le français est par définition léger, l'espagnol nostalgique. Tout ça correspond à des stéréotypes qui ont une très longue tradition, qui remontent jusqu'à l'Antiquité et qui ont été véhiculés dans la culture occidentale, ces stéréotypes, depuis l'Antiquité, à travers les textes des humanistes, jusqu'à ces stéréotypes qui existent, vous le voyez, au XVIIIe siècle et qui sont bien entendu encore présents aujourd'hui. Et ça nous permet de poser la question essentielle qui est de savoir comment une référence à la montagne dans ce contexte stéréotypé peut servir de base à l'affirmation des identités. Donc l'idée c'est qu'il y a un stéréotype de la montagne très ancien qui remonte à l'Antiquité, où on associe à l'environnement montagnard des peuples, des populations, qui par définition sont des populations courageuses, mais en même temps féroces, cruelles, qui aiment la guerre, qui aiment par-dessus tout la liberté, mais dont la caractéristique principale est d'être sans cesse en conflit avec leurs voisins. Voilà le stéréotype de la montagne qui va servir à la construction identitaire. Si je remonte dans le temps et si je regarde la situation de la Suisse, on verra que très tôt, dans l'imaginaire politique suisse, on a associé la montagne à l'essence même du pays, comme le montre ce tableau du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, qui est une véritable allégorie politique de la Confédération suisse, où on voit la Confédération représentée par une montagne symbolique qui forme un rempart, ce que souligne évidemment aussi l'autre partie symétrique de l'image où on observe un rempart qui vient renforcer ce que la nature, il y a quelque part le mot nature ici, ce que la nature a donné aux Suisses, c'est-à-dire la montagne. Et puis vous avez bien sûr sur cette représentation allégorique tout ce qui est, qui fait partie du vocabulaire politique suisse, liberté, mais également ici la concorde. Et je passe sur les mythes, les trois Suisses, on y reviendra peut-être, cette idée qu'on est dans des démocraties d'assemblée, tout ça est présent, y compris des vignettes avec des taureaux et des vaches qui, vous le verrez, jouent un rôle important dans l'imaginaire politique. Je remonte encore dans le temps, cette fois-ci jusqu'au XIVe siècle, une date 1386 qui est une bataille très importante dans l'histoire de la Suisse, la bataille de Sempach, où les cantons suisses, dont on voit ici les bannières, se sont heurtés aux troupes des Habsbourg et ont remporté la victoire. Or, cet événement est un événement considérable. Je le dis toujours à mes étudiants qui ne savent pas forcément que la télévision n'existait pas au Moyen-Âge, que cet événement a fait la une du journal télévisé en 1386, tellement c'était inouï, cet événement. Inouï que des montagnards, des paysans, arrivent à battre une armée de chevaliers professionnels, et donc de renverser l'ordre des choses, parce que les paysans et les montagnards d'habitude sont là pour travailler, les seigneurs pour commander, et cette fois-ci c'est l'inverse, il y a un renversement de l'ordre social médiéval, les paysans prennent le dessus sur la noblesse. C'est un événement inouï et qui va laisser des traces considérables dans l'histoire, justement la perception des montagnards qui par définition, et c'est ce que j'appelle le syndrome de Sempach, par définition, les montagnards qui sont des rebelles qui se dressent contre l'ordre social de leur temps. Cette vision des Suisses comme étant des rebelles, évidemment, a une carrière florissante devant elle au XIVe, XVe siècle, avec des moments forts sur lesquels je ne vais pas m'apesantir parce que ce n'est pas l'objet. Les guerres de Bourgogne, fin du XVe siècle, sont des guerres qui mettent en évidence le caractère germanique de la Suisse, parce que la guerre contre la Bourgogne, c'est une guerre contre des Welches, comme on disait alors, donc contre des peuples du Sud, des Latins, et c'est l'affirmation du caractère fondamentalement germanique de l'idéologie politique helvétique. Et puis ensuite, une confrontation directe fin du XVe siècle avec l'Empire germanique lui-même, que j'illustre par une vignette, une chronique plus tardive, où on voit une querelle lors d'une fête de tir, une querelle entre des Suisses et des Souaves, donc des gens du sud de l'Allemagne. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que à ce moment-là, il y a une campagne contre les cantons suisses, qui est une campagne de propagande contre les Suisses qui est assez extraordinaire et qui fait penser à ce qu'on peut voir parfois aujourd'hui, avec la diffusion dans toute l'Europe de plaisanteries, d'insultes, de chansons contre les Suisses qui sont assimilées à ce qu'on appelle des Kuhschweizer, c'est-à-dire des Suisses qui sont comme des vaches. C'est sur ce thème que, vous le verrez, l'identité helvétique va ensuite se construire. Point final de cet imaginaire guerrier, ce sera bien sûr ce qu'on appelle les guerres d'Italie, où la puissance militaire suisse va trouver, au début du XVIe siècle, plus forte Kerr. Et vous voyez sur cette gravure d'un peintre suisse, Allégorie de la guerre, on voit bien les deux versants de la guerre. La guerre qui est l'idéal de ces peuples montagnards, la guerre apporte sans doute la richesse, ce qui est symbolisé par le costume chamarré ici du soldat avec des plumes et l'idée que par la guerre on va pouvoir ramener des richesses dans son pays. C'est vrai que les Suisses en Italie, contrairement à d'autres nations européennes, ne sont pas tellement intéressés aux œuvres d'art, mais sont surtout intéressés à l'or et à l'argent. Et c'est ce qu'ils ont ramené au nord des Alpes, mais jamais des tableaux ni des statues antiques. Mais l'autre versant de la guerre, c'est évidemment la misère. Donc on est déjà dans une perception critique de cette glorification de la violence telle qu'elle pouvait exister en Suisse au XIVe, XVe, jusqu'au début du XVIe siècle. Et c'est en même temps un moment alors où on va, d'une certaine manière, s'approprier le regard des autres. Les identités se construisent toujours contre quelque chose. Les identités se construisent contre les voisins. Et dans le cas de la Suisse, c'est évident, dans le cas de la construction identitaire basée sur la montagne et la figure du montagnard, c'est contre les voisins que cela se construit, et à un moment donné, cela implique l'intériorisation, l'intégration du regard de l'autre. Et cela se passe au XVe, surtout au XVIe siècle, notamment par l'utilisation de ce symbole identitaire qu'est la vache. La vache, au départ, c'était un animal qu'on méprisait. Au XVIe siècle, on méprise ceux qui s'occupent du bétail. Donc les paysans de montagne qui élèvent des moutons et des vaches, on les méprise. Parce que travailler avec les animaux, c'est considéré comme dévalorisant par rapport à l'agriculture telle qu'on l'imagine à cette époque, qui est la grande agriculture, l'agriculture de plaine, l'agriculture céréalière. Et donc on perçoit les paysans de montagne de manière très critique, en particulier on les accuse de bestialité, ce que je traduis ici par cette expression, les vachers sont, les gens qui s'occupent du bétail sont par définition sodomites. Et on se moque de ces Suisses qui sont tous des sodomites. Et en contrepartie, il y a une sorte d'intégration de ce schéma. Alors, vous avez là une vignette qui date du début du XVIe siècle, qui est utilisée par des Suisses pour symboliser la nation. Donc on prend le modèle négatif et on l'intériorise. Et puis ensuite, ça devient, fin du XVIe siècle, ce type d'image où la vache porte justement en couronne tous les écussons des cantons suisses. Simplement, la corne est brisée, ce qui évoque les difficultés confessionnelles à la suite de la réforme, la rupture entre catholiques et protestants. Mais ce que les autres voyaient négativement, on l'intègre comme une qualité positive. Ce que, à l'étranger, en dehors des cantons suisses, on considérait comme ces montagnards qui sont des brutes, des rustres, qui n'ont pas de culture, qui sont des gens qui habitent dans les forêts, des sylvestres et des alpinates inclementes, comme dit un humaniste du début du XVIe siècle, eh bien, on le valorise, on l'intègre, et alors ça nous donne ce type d'image. Là, j'ai mis la source probable des représentations des montagnes, ça vient de la peinture italienne, c'est une fresque du début du XVe siècle, nord de l'Italie. On voit les montagnes comme des taupinières, et voyez qu'un siècle et demi plus tard, en 1544, c'est encore ce type d'image qui est repris sur la page de titre d'un livre qui s'appelle Helvetia, das ist Schweizerland. C'est donc le pays des Suisses. Et ce pays des Suisses, c'est des montagnes. Et on vous précise que c'est une nation allemande qui est limitée, qui est bordée par des pays belges, par deux pays belges, l'Italie et la Gaule. l'identité est ici déjà basée sur le paysage de montagne. Ça, c'est pas des avions dans le ciel. Il faut aussi préciser quand on l'explique à des étudiants, par exemple, parce qu'il faut des confusions. Donc, une identité basée sur l'association entre la montagne et le territoire. Alors voilà ce que j'ai essayé de construire, hein, ce modèle du montagnard libre qui véhicule une réputation de peuple violent, belliqueux, mais qui a rompu à un moment donné avec l'ordre social. Les Suisses, c'est le modèle de la subversion, d'une certaine manière. Alors c'est ce modèle-là, au fond, que connaît, auquel fait référence probablement Chanoux. Chanoux devrait arriver là. Et quand on trouve dans ce texte de 1924 une allusion à tout ce que je viens de vous raconter. C'est une notation qui est très ponctuelle. D'ailleurs, dans l'édition de Chanoux, on n'a probablement pas pu lire ce qu'il avait écrit ici. Les Suisses secouèrent le joug de l'oppression, ils s'unirent, ils se rangèrent à côté de leur héros légendaire. Alors, il cite Guillaume Tell, puis il pense à d'autres choses, il aurait peut-être écrit quelque chose, mais on ne sait pas. Pour la défense sacrée de leurs droits, et il ajoute, ils étaient pauvres comme nous, nés et vivant au milieu de montagnes plus pauvres que les nôtres, ils avaient un ennemi aussi puissant que le nôtre. Et pourtant, ils furent vainqueurs. Donc, ce à quoi pense Chanoux, c'est et pense ce que je vous ai raconté avant. C'est-à-dire une vision héroïsée, idéalisée de l'histoire suisse, mais des événements qui, vous l'avez bien compris, remontent au 14e, 15e siècle. Et c'est présent ici, dans cette petite phrase de Chanoux. Et, à mon avis, Émile Chanoux ne fait rien d'autre que de raisonner comme d'autres avant lui, qui ont également utilisé ce modèle. Alors, il y en a toute une série à travers l'histoire. Je crois le plus spectaculaire, c'est quand même au moment de la guerre des paysans en Allemagne. Je remonte encore une fois dans les siècles, au XVIe siècle, guerre des paysans en Allemagne. Les paysans se confrontent aux princes. Ils sont démoralisés parce qu'évidemment, les paysans révoltés de 1525 se rendent bien compte qu'ils n'arriveront pas à battre une armée bien entraînée, bien équipée, qu'est l'armée princière. Alors ils veulent rentrer à la maison. Et leur chef, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais regardez ce qu'ont fait les Suisses. Et il leur raconte l'histoire de la Suisse. C'est-à-dire deux siècles après. Et ce qui est également intéressant pour nous, c'est que Thomas Müntzer, le chef de l'armée des paysans révoltés en Allemagne en 1425, il précise même que ce qu'il raconte, c'est qu'il l'a lu dans les livres d'histoire. On dit, à ce que nous disent les historiens, les paysans suisses ont réussi à vaincre leur seigneur. Et donc pourquoi nous, un siècle et demi après, on n'arriverait pas à faire la même chose? Et effectivement, combattent les seigneurs, ils sont totalement massacrés. Même type de phénomène, plus tardivement, on raconte des cas dans le sud de la France, fin du XVIe siècle, quand un notable veut faire comprendre à sa ville de quel côté est le pouvoir, il fait défiler en ville une troupe de jeunes déguisés en Suisse. Déguisés en Suisse, c'est-à-dire avec un costume de berger et des trompes de montagnards, des trompettes de montagnards, des sortes de cors des Alpes. Et cette mise en scène suffit à calmer les esprits, parce que ça rappelle aux gens ce qui pourrait leur arriver si jamais ils refusaient l'autorité qu'on leur propose. On retrouve des choses semblables encore au début du 19e siècle, dans la révolte du Tyrol. La révolte du Tyrol, début du 19e siècle, mobilise également cet imaginaire helvétique. La seule différence, c'est que on a une vision de la Suisse qui a transité par la pièce de Schiller, le Guillaume Tell de Schiller, qui a eu un succès extraordinaire dans tout le monde germanique. Donc on voit les Suisses à travers Schiller, mais c'est la même fonction début du 19e siècle. Donc on peut très bien comprendre que pour Chanou, en 1924, ce type de référence puisse encore avoir une certaine pertinence. Ce qu'il faut ajouter ensuite, c'est bien sûr l'esthétisation de tout cela. Chez Chanou, par rapport à ses prédécesseurs, il y a quand même l'idée que non seulement les gens des montagnes sont libres et attachés à cette liberté, mais en même temps, ils vivent dans un environnement qui est un beau paysage. On ne doit pas négliger cette vision esthétique, parce que les Alpes ont été, vous le savez, esthétisées à partir du XVIIIe siècle. Et quand Chanou parle de peuples qui vivent pauvrement, il fait sans doute allusion aux bergers des montagnes que l'on voit sur toutes les images de paysages de l'époque romantique, ces bergers des montagnes qui vivent simplement dans un environnement rude, mais qui n'ont pas évidemment les préoccupations sophistiquées des gens qui vivent dans les Alpes. Ce processus d'esthétisation, on peut parfois le suivre. Je vous en montre un exemple, parce que c'est non seulement l'esthétisation du paysage, mais c'est l'esthétisation des montagnards eux-mêmes. Vous voyez ici un portrait d'un couple de paysans fait par un peintre qui avait une préoccupation ethnographique, qui faisait des types humains qui circulaient à travers la Suisse et qui a fait à peu près 140 tableaux de ce genre. Quand ce modèle est repris par la gravure, les gravures que l'on vend au début du 19e siècle, qui seront bien sûr achetées ensuite par les touristes, et c'est l'ancêtre de la carte postale. Vous voyez que les mêmes, vous voyez comme ils se transforment. Tout à coup, la paysanne, elle devient un peu plus jeune, elle est un peu mièvre. Et puis le berger, il est beaucoup moins rude et beaucoup moins montagnard qu'il avait l'air ici. On transforme les visages pour les rendre conformes à la mythologie, à ce qu'on attend de l'habitant des Alpes. Inutile de vous dire que tout le monde ne voit pas les choses comme ça, puisque on le sait, vous le savez également pour la vallée d'Ost, il y a ce problème très fréquemment repris par les observateurs, la question des goîtres. Ici, sur cette gravure, on voit des paysans de la région de Genève, parce que derrière, on voit Genève, qui sont affublés, ces paysannes, de cette affection de la glande thyroïde, qui était, semble-t-il, très fréquent dans les régions de montagne, et que ne manque pas d'observer les voyageurs, avec parfois évidemment des exagérations, comme celui qui a écrit l'article Valais dans l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot. Et l'article Valais, ça commence par une phrase du genre « Dans ce pays, il n'y a que des crétins ». Et donc, ça veut dire que les crétins, c'était un autre terme pour désigner les gens affublés du goitre. Donc, je fais cette nuance qui n'est pas vraiment présente dans l'image dans ce que dit Chanou. Chanou, dans un autre texte, pose cette question. Puis il y répond en même temps. Alors je me suis demandé si on pouvait trouver des traces ensuite dans des textes en Suisse qui aillent à peu près dans le même sens et qui éventuellement donnent une réponse. Alors c'est vrai qu'il y a des citations emblématiques qu'on peut faire, celle-ci, d'un professeur de littérature à Zurich, 1909, la montagne commande encore notre vie tout entière. Donc toujours cette insistance. un autre écrivain, Meinrad Ingelin, dans un roman de 1928, nous voyons la patrie fondée dans le secret de l'union entre la nature et le peuple. Bon, c'est toujours, on affirme ce lien fort. Et puis, chez le grand écrivain francophone Ramu, 1937, il y a quelque chose qui ressemble quand même à la citation de Chanoux, parce qu'il dit que les Suisses, évidemment, sont sans cesse confrontés à ce paysage de leur pays. Ils le jugent beau, mais, dit Ramu, ils ne savent pas pourquoi. Et c'est donc cette idée que ce n'est pas forcément évident d'affirmer la conscience d'une mission particulière, à moins que l'on admette que cette mission particulière, c'est ce qu'on appelle en Suisse le Sonderfall suisse. La Suisse est une exception, un cas particulier. On en parle beaucoup aujourd'hui du fait de notre non-intégration dans l'Union européenne. Alors on a reparlé énormément en Suisse de ce Sonderfall, c'est une sorte d'idéologie politique aujourd'hui, mais c'est une notion ancienne. On le voit bien déjà dans ce tableau de 1922, une peinture votive, où on voit, c'est une peinture qui remercie Dieu d'avoir protégé la Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Là, on voit la Suisse représentée comme une montagne, comme il se doit, avec toutes sortes de scènes idylliques sous cette montagne. Puis le reste du monde, c'est-à-dire toute l'Europe, est un champ de bataille rempli de cadavres et d'ossements, d'où s'échappent les cavaliers de l'Apocalypse. Donc c'est cette idée que nous, on a été préservés de tout cela, grâce en particulier au saint patron de la Suisse, qui est Nicolas de Flux. Donc ça veut dire que la Suisse est un pays élu, hein, choisi par Dieu, préservé de tous les maux du monde. Ça fait partie de l'idéologie également helvétique. C'est une notion très ancrée, hein, dans la conviction des Suisses à toutes les époques, mais c'est un autre sujet. Je passe très vite sur cette preuve, hein, de l'importance de la montagne dans l'imaginaire politique suisse. Quand on a réfléchi à ce qu'on pouvait montrer à l'exposition universelle de Paris pour témoigner du génie suisse, on a décidé d'envoyer à Paris un relief, un plan relief de la Suisse. C'est un grand objet d'environ 20 mètres sur 12, hein, ce plan est énorme, au 100 000e. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a soigné là-dessus la présentation des montagnes, évidemment. C'est les montagnes qui apparaissent. Et puis les villes, vous voyez comment sont représentées les villes, Zurich, Berne, ou Bâle, ou Genève. C'est des espèces de taches jaunes. Alors ça me fait penser à une sorte de moisissure. C'est quelque chose qui ronge le pays, qui existe, mais on ne peut pas l'ignorer, mais ce n'est pas typiquement suisse. La vraie Suisse, elle est là. Ça, c'est quelque chose qui est extérieur. Et puis, on pourrait multiplier toutes sortes d'autres témoignages. Je crois que c'est quand même un fait remarquable que dans la salle du Parlement fédéral à Berne, il y a une peinture de paysage qui représente d'ailleurs un lieu mythique, la prairie du C'est le seul pays au monde où on a un paysage, vraisemblablement. D'habitude, qu'est-ce qu'on met? Des grandes figures de la nation, des scènes historiques, etc. C'est quand même assez étonnant. Ce type de représentation est aujourd'hui tourné un peu en dérision. Vous voyez le même paysage revu par un artiste contemporain qui met une centrale nucléaire sur le lieu mythique, une autoroute à proximité, et puis qui urbanise totalement ce paysage de montagne. C'est vous dire que, là je fais juste un excursus, c'est vous dire que ces mythes, ils sont aujourd'hui remis en cause. Et que la vache qui a joué, vous l'avez compris, un rôle essentiel dans les références politiques de la Suisse, la vache n'est plus aujourd'hui qu'un support publicitaire. Et peut-être Valvoten, mais le chocolat Milka est fabriqué en Allemagne. Fabriqué en Allemagne. Donc, ça n'a plus cette connotation. Hein, là, encore dans cette publicité qui est une publicité des années 1970, on a besoin de mettre la vache dans un paysage, hein, pour évoquer que le chocolat doit être bon parce que c'est le lait des montagnes, etc. Mais aujourd'hui, il suffit de montrer la couleur lila et tout le monde sait que c'est du chocolat Milka. On n'a plus besoin du reste. Et au fond, on pourrait essayer de mettre un éléphant à la place de la vache et probablement que l'effet serait le même. On achèterait quand même le chocolat que c'est calculé. Donc on est dans une phase, je dépasse si vous voulez un peu, on est dans une phase où toutes ces références sont en train d'être complètement remises en cause et rediscutées. Hein. Ce qui n'était évidemment pas le cas au temps de Chanoux. Et puis dernier aspect de mon exposé, c'est l'allusion que faisait Chanoux aux régions pauvres. Hein. Il dit que les Alpes, ce sont des régions pauvres. Et c'est vrai que la dimension de la économique, elle est quand même essentielle. Il ne faut pas oublier cette dimension économique. On a bâti une identité sur la montagne, mais à un moment donné, on se rend compte aussi que la montagne, elle est à l'écart du développement économique. On prend conscience de l'existence de ce qu'on appelle les disparités économiques régionales. Alors ça se fait à peu près dans tous les pays d'Europe. C'est à la fin du 19e siècle qu'on commence à prendre conscience de la nécessité de soutenir les économies de montagne, ou en tout cas de trouver une solution pour que la montagne se développe comme le reste. Puisque le développement, à l'époque industrielle, le développement a... Évidemment, c'est fait dans les régions de plaine, dans les villes. L'industrialisation a laissé grandement à l'écart les régions de montagne. Donc, à un moment, ce choc, comment se fait-il que ces régions mythiques, sur lesquelles on a fondé toute l'identité nationale, que ces régions mythiques soient des régions pauvres? Alors, la perception de cette réalité, elle se fait en plusieurs étapes, mais je pense que pour Chanoux, c'est ce contexte-là qui a dû jouer un rôle. C'est dans les années 20, on a commencé à parler des régions alpestres en Suisse. C'est le terme qu'on trouve dans la législation. Et pour la première fois, dans une loi de 1929, la loi sur l'agriculture de 1929, on fait une distinction. Quand on parle de l'agriculture, on fait une distinction et on sépare l'agriculture de montagne du reste de l'activité agricole. Et on demande à la Confédération, donc, à partir de 1929, de tenir compte des besoins des régions montagneuses. Les montagnes deviennent une catégorie économique particulière. Et ça nécessite d'ailleurs une définition de la montagne. Pour le moment, on n'avait pas besoin de définir la montagne. Où s'arrête la montagne? Qu'est-ce qui est montagneux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? En 1929, après de longues discussions, on a décidé que les régions de montagne, ça commençait à 800 mètres. Donc tout ce qui est au-dessus de 800 mètres, ça fait partie des régions de montagne. Alors, je crois que c'est important de rappeler cela, parce que quand Chanoux explique que le pays est resté décentralisé, que la Suisse est restée fédérative. Bien entendu, il a raison, mais à mon avis, il occulte quand même une réalité qui est la réalité du sous-développement des régions de montagne. Cette réalité du sous-développement des régions de montagne qui fait que malgré la structure décentralisée et fédérative, le pouvoir central qui est la Confédération a pris en main l'économie des régions de montagne et a porté financièrement l'économie des régions de montagne à partir de 1947. C'est en 1947 qu'on donne au pouvoir central, à la Confédération, la tâche de protéger les régions dont l'économie est menacée, c'est le texte, c'est ce que dit le texte, et les régions dont l'économie est menacée, ce sont par définition les régions de montagne. Et cela va très loin, puisqu'il y a en Suisse une politique de la montagne. Alors là, encore une fois, je dépasse vraiment le cadre de la période qui nous intéresse plus particulièrement, mais pour vous rappeler qu'on a une perception de la politique économique régionale qui est conditionnée par la montagne. Et donc, elle est largement mythique. La montagne, c'est, selon la loi de 1974, la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissement dans les régions de montagne, la fameuse LIM, qui est très admirée d'ailleurs à l'étranger, notamment en France et probablement aussi en Italie, on connaît cette législation. Mais cette législation repose sur une vision mythique de la Suisse, parce que voilà ce que c'est que la Suisse d'après cette loi. Vous voyez que pratiquement les deux tiers du pays est considéré comme région de montagne. Les deux tiers du pays, c'est une région de montagne dans laquelle vit un tiers de la population. Ce sont donc ces régions qui sont ici colorées. Et là, on peut avoir l'impression que la politique économique ne pense qu'à la montagne. Et puis on a même, par le biais de cette législation, on a étendu le champ d'application à d'autres régions qui sont les régions dites en redéploiement, des régions qui étaient touchées par la crise économique dans les années 70, les régions de mono-industrie, etc. Donc une politique régionale fondamentalement basée sur la montagne. Je dirais que c'est l'aboutissement de l'idéologie de la montagne. C'est l'idée qu'il n'y a que la montagne qui compte. Et je terminerai mon exposé en vous faisant remarquer que on a, pendant longtemps en Suisse, on a pensé qu'à la montagne et on a oublié le reste. Et le reste, ce qui figure sur cette carte, c'est-à-dire, ce sont les agglomérations, les régions urbaines. Les régions urbaines, en superficie, c'est seulement un quart du territoire, mais en population, c'est les trois quarts de la population qui sont dans ces régions, dans ces agglomérations. Vous avez le trois quarts de la population suisse. Et ça, on l'a complètement occulté dans la législation, si bien qu'il faut attendre en Suisse l'année 1999, la nouvelle constitution fédérale, pour que les régions urbaines et les villes soient aussi intégrées. C'est-à-dire, le mot « ville » n'existait pas dans la législation suisse avant 1999. Vous n'avez jamais le mot « ville » ou « urbain », ça n'existe pas, ça n'est jamais présent dans les lois. Enfin, mon collègue va me corriger si je me trompe, mais on n'emploie pas, on parle uniquement de localité, mais on n'emploie jamais l'expression de « ville ». Donc, dans la nouvelle constitution, vous voyez, ce qui change, c'est que la Confédération va prendre en considération les régions économiquement défavorisées, bien sûr, mais c'est plus seulement les régions de montagne, mais ça commence par les villes et les agglomérations urbaines. Et ça, c'est quand même un retournement de la pensée d'une politique et de la culture suisse qui est absolument extraordinaire, parce que maintenant, ce n'est plus les montagnes qui sont la priorité, mais c'est les villes et les agglomérations urbaines. Alors ça, bien sûr, Chanou ne l'a pas vécu, mais c'est pour vous dire qu'à l'époque de Chanou, aussi bien en Suisse que de l'extérieur, on vivait sur une vision largement mythifiée, mythique, et probablement avec beaucoup de choix stratégiques qui finalement se sont avérés dommageables pour la suite du développement économique. Donc aujourd'hui, la politique régionale suisse est beaucoup moins orientée vers la montagne qu'elle ne l'était dans les années 20, et encore au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc à l'époque de Chanoux. Aujourd'hui, ce qui intéresse les autorités et la politique fédérale, c'est justement les agglomérations et puis ce qu'on appelle la nouvelle politique régionale, ou alors on est en plein dans ces nouveaux discours qui vient des modèles anglo-saxons, et également dans un discours très européen, on commence à employer ce terme des euro-régions, et les cartes que l'on trouve aujourd'hui, ce sont des cartes où la montagne n'est plus l'élément essentiel, mais où ce qui est fondamental, c'est précisément le rayonnement des grandes villes et leur intégration dans les grands réseaux européens. Donc on a, au fond, transformé la vision sur le territoire, et on est maintenant dans une orientation qui est assez différente de celle des années 20, même fondamentalement différente, ce qui, évidemment, laisse entier le problème du statut des régions de montagne, parce que je pense que les habitants des cantons de montagne ne sont pas toujours très heureux de voir que leurs régions sont simplement assimilées à des sortes de réserves paysagères pour le tourisme. Je vous remercie de votre attention.